France Musique. Les grands entretiens, Benjamin François.
Je suis Leonard Slatkin. Je suis né en Los Angeles en 1944 et je suis un chef d'orchestre, compositeur et auteur.
Avez-vous réagi, Leonard Slatkin, quand Anne Pourcin et Jennifer Gilbert, qui est la première violon super soliste de l'Orchestre National de Lyon, toujours aujourd'hui, sont venus vous trouver dans votre hôtel et vous ont demandé de devenir directeur musical de l'Orchestre National de Lyon?
I was conducting the Deutsche Symphonie Orchestra.
Je dirigeais l'Orchestre Symphonique Allemand de Berlin à l'époque. Et après le concert, Jennifer Gilbert et Anne Pourcin sont venus me voir et dans ma loge m'ont demandé si cela m'intéressait de devenir le chef d'orchestre de Lyon. Je crois que j'ai dirigé l'orchestre de Lyon deux fois. J'ai toujours aimé cela, mais je n'avais jamais envisagé d'y avoir un poste permanent. Et bien que j'ai travaillé à la BBC pendant 4 ans, je voulais voir ce que je pouvais faire dans un milieu vraiment européen. Donc, j'ai accepté cette proposition. Il a fallu 2 ans avant de s'engager véritablement. Mais une fois installés à Lyon, nous avons pu travailler ensemble. Et notre relation n'a fait que se renforcer. Et ça a changé un petit peu la relation avec le chef d'orchestre, je pense. L'esprit, c'est en fait un orchestre français, mais avec une mentalité anglo-saxonne. Moi, j'ai toujours pensé que j'étais un musicien parmi les autres. Mais comme dans le milieu du sport, il faut un coach pour vous dire on va faire ci, on va faire ça. C'est ça mon boulot. Mais par ailleurs, je donne aux musiciens, notamment aux solistes, beaucoup de souplesse. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent pour les grands solos. Ils ont répété d'une certaine façon, et qui suis-je, moi, pour changer les choses, sauf si vraiment il y a une discordance entre nos façons de voir. À Lyon, j'ai beaucoup appris, et j'ai vraiment aimé cette expérience. C'était l'un des moments les plus heureux de ma vie.
Et durant toutes ces années 2011-2017 à Lyon, vous en avez profité pour notamment faire beaucoup d'enregistrements avec Berlioz. Je pense aussi à Debussy, je pense à tous les Français, y compris des Français qu'on ne joue jamais chez nous, Henri Rabaud, quelques-uns qui ne sont pas très interprétés jusque chez nous.
Right away, I felt that one of my responsibilities.
D'emblée, je me suis dit que l'une de mes responsabilités était envers le véritable nom de cet orchestre, l'Orchestre National de Lyon.
I love the repertoire.
Moi, j'aime le répertoire français, je m'y suis toujours senti à l'aise. Donc ce nom, Orchestre National de Lyon, je l'ai pris au pied de la lettre. Et lorsque les musiciens exprimaient un doute sur ma façon de voir les choses, ils savaient qu'ils avaient toute légitimité à le faire. Je me souviens, on jouait le tombeau de Couperin, et le premier hautbois est venu me voir en me disant « Vous savez, nous, on a l'habitude de jouer ça un peu plus vite. » Et moi, j'ai répondu « Ah, vous savez, quand j'étais pianiste, je n'y arrivais pas aussi vite, moi. C'est pour ça que je vous le fais jouer lentement. » Mais il avait tout à fait raison. Lui, il savait jouer vite. Et ça a donné un peu plus de légèreté à la musique. Il avait tout à fait raison. Donc, j'étais toujours à l'écoute des remarques des musiciens, mais je crois qu'ils m'écoutaient aussi. Nous avons mis au point une façon très particulière de jouer la symphonie fantastique, assez unique, très très chouette. Moi j'ai voulu une approche différente, nous l'avons beaucoup joué cette symphonie, en tournée, à chaque fois qu'on nous embauchait, on nous a joué soit la symphonie fantastique, soit le boléro de Ravel. Boléro de Ravel, il n'y a pas grand chose que l'on puisse faire quand on est chef d'orchestre, c'est les solistes qui font le boulot. Mais pour la symphonie fantastique, si. Et je disais aux musiciens, ce soir, je ne sais pas ce que je vais faire, suivez-moi et on va s'amuser.
Zlatkin, vous en avez profité aussi avec l'Orchestre de Lyon pour jouer des compositeurs américains. Il y a eu notamment un festival avec 3 semaines de compositeurs américains. Comment est-ce que les musiciens français se sont laissés faire par votre manière de jouer les compositeurs américains ?
Je crois qu'ils ont bien aimé. C'était chouette pour tout le monde parce que moi j'ai grandi dans cette tradition avec Copland ou Gershwin. C'est comme s'ils étaient dans mon salon, ces gens-là. Comme si j'étais dans une conversation, il fallait que j'explique la musique. Il y a beaucoup de musiciens qui m'ont dit qu'ils auraient voulu jouer plus de musique américaine. Mais à Lyon, ils se sont bien adaptés à la musique américaine. Ils semblaient bien aimer l'état d'esprit. Ils savaient que lorsque je la jouais, mon visage s'illuminait de manière un petit peu différente et le public en était conscient aussi. Je n'ai jamais joué de manière condescendante pour le public, que ce soit de la musique de Broadway, des musiques de films, des symphonies. Pour moi, tout ça, c'était de la musique. Et j'essayais toujours de respecter la musique, de la garder sur son piédestal. Par exemple, je jouais un petit morceau de Leroy Anderson, qui a écrit de la musique légère dans les années 50. Il y avait un morceau qui s'appelait Le chat valseur. Et c'est le public que je faisais miauler. Je faisais participer le public. Vous voyez ? Toutes ces petites idées que j'avais avec l'orchestre. L'orchestre comprenait bien qu'il y avait là-dedans de la fraîcheur à faire participer le public. Mais ce n'était pas un problème du tout quand on faisait cette musique-là.
Thank you.
Leonard Zlatkin, votre relation au compositeur de notre temps est quelque chose d'important sur toute votre carrière. Vous avez créé énormément d'œuvres. Vous êtes marié à une compositrice. Et vous avez toujours tenu à bien interpréter ces nouvelles pièces. Vous disiez aussi que Arnold Schoenberg avait 50 répétitions pour la première de Pierrot Lunaire. Ce n'est plus le cas, évidemment, aujourd'hui, même pour les créations.
One expression that I've been using recently.
Il y a une expression que j'utilise depuis peu, c'est que le plus grand ennemi du musicien, c'est l'horloge.
If you are a violinist,
si l'on est violoniste, pianiste, chanteur, lorsque l'on répète, on peut décider combien de temps on va travailler. Mais lorsque l'on joue dans un orchestre, il faut tout faire dans les temps. Il y a des délais à respecter. Généralement, on a 4 heures, par exemple. Parfois, on joue 2 heures et demie ou 3 heures.
That means you have to decide.
Autrement dit, il faut décider avant de commencer la répétition. Il faut décider ce que l'on veut faire.
My rehearsal process has.
Moi, mon travail de répétition.
Been greatly assisted.
Je l'ai amélioré.
When I was an assistant conductor.
Au fil du temps, et puis il a beaucoup bénéficié de mon expérience en tant qu'assistant, parce que très souvent, il fallait organiser des concerts en une seule répétition. C'est comme ça quand on est jeune. Et parfois, on n'a pas de répétition du tout. Autrement dit, on apprend à connaître la valeur du temps que l'on doit passer en répétition. Avec Schoenberg, évidemment, il s'agit d'un langage nouveau, un langage que les gens ne connaissent pas. Donc il faut commencer à faire confiance aux musiciens, beaucoup plus. Grâce à cette expérience de la répétition unique avant le concert, j'ai trouvé un équilibre entre la musique que connaît l'orchestre et comment travailler une musique nouvelle, qu'il s'agisse de musique contemporaine ou de musique plus ancienne, pour justement arriver à tout caler pendant le temps de la répétition. Malgré le fait que je joue beaucoup de musique nouvelle, la plupart du temps, je joue des styles dans lesquels je suis à l'aise. Ainsi, je peux deviner ce qu'il faut faire, même à l'école de musique de Aspen ou à la Juilliard School, je travaillais ainsi. Et j'ai commencé à bien comprendre comment il fallait lire les partitions des jeunes compositeurs.
Les grands entretiens de Leonard Zlatkin, France Musique.
Leonard Zlatkin, vous avez intitulé votre premier livre avec ce mot. Peut-être qu'il y a la grande différence aussi entre l'Europe et les États-Unis, qui peut faire un peu sursauter du côté européen. Business. Et vous êtes en train de nous expliquer qu'un chef d'orchestre aux États-Unis a besoin de lever de l'argent. Comment ça s'est passé exactement? Comment assumez-vous cette partie de votre travail?
I think as a music director in the States, it's your job.
Le directeur musical aux États-Unis doit s'atteler à cette tâche. Ça fait partie de son boulot.
I will lead the orchestra.
Il doit diriger l'orchestre et il doit construire l'orchestre. Par construire, j'entends toutes les tâches ancillaires à la direction. Stokowski, Ormandie, Selle et d'autres ont abattu un travail énorme. Mais les saisons n'étaient pas aussi longues à l'époque. Ils ne jouaient que 24 semaines, voire 32. Il y avait très peu de chefs d'orchestre invités à l'époque. Donc le chef d'orchestre était celui qui formait le goût du public, mais le chef d'orchestre devait également trouver le financement. Par conséquent, pour moi, ces tâches allaient de soi lorsque je me suis lancé. Aujourd'hui, je ne suis plus directeur musical. Et je dois dire que maintenant que j'ai 75 ans, voire davantage, je suis ravi de ne plus avoir cette tâche administrative. Je crois que j'en suis pas mal sorti. Parfois, je faisais des erreurs, certes, mais la plupart du temps, je crois que je m'en suis pas mal tiré. Mais pour moi, ça fait partie du travail. Au bout du compte, pour se retrouver sur le podium devant l'orchestre, il faut avoir fait toutes les tâches administratives au préalable.
Vous vous souvenez, Léonard Zlatkine, de vos premiers concerts à Paris avec les orchestres de la radio? Vous avez raconté l'anecdote avec Kurt Mazur à la radio. Vous avez aussi dirigé l'orchestre de l'Opéra de Paris. Quand vous arriviez des États-Unis, en Europe et à Paris en particulier, vous faisiez des comparaisons avec les orchestres américains?
Quand je suis arrivé à Paris pour la première fois, c'était pour célébrer le 60e anniversaire d'Isaac Stern. Et je crois qu'il devait passer 9 mois à Paris. Il faut bien dire qu'il régnait une mentalité très particulière à l'époque. Je me souviens de la première répétition, je ne parlais pas du tout français. Isaac Stern était là. Il assistait à toutes les répétitions, il était assis à côté du podium parce qu'il allait montrer aux musiciens comment il faut répéter et comment il faut faire de la musique. La première œuvre que j'ai jouée, c'était l'ouverture des Vêpres siciliennes de Verdi. Je l'ai jouée. Et à la fin, au bout de 10 minutes, je me tourne vers Isaac et je dis, Isaac, est-ce que tu pourrais demander au premier basson pourquoi il est assis si loin de la première clarinette? Généralement, ils sont assis l'un à côté de l'autre. Isaac dit au premier basson, pourquoi est-ce que tu es assis si loin de la clarinette? Et le basson répond, parce que si je m'assois à côté de la clarinette, j'ai la trompette dans l'oreille. Isaac dit, mais peut-être que l'on pourrait redisposer les pupitres. Et moi j'interviens et je dis, si on mettait les trompettes un peu à droite, on va mettre les cuivres à gauche et vous, vous mettez à côté de la clarinette. Et le basson dit, oui, ça c'est une bonne idée. C'est comme ça que l'on est disposé habituellement. Mais moi je dis, mais pourquoi vous n'avez pas choisi cette option dès le début? Parce que, me dit-il, on ne savait pas comment vous, vous vouliez nous disposer. Ça, c'était assez typique de ce qui s'est passé pendant toute la semaine. Des petites choses un petit peu agaçantes, comme ça. Des petites tracasseries. C'était comme ça, il y a environ 35 ans. Évidemment, les choses ont évolué.
Thank you.
In Lyon, they got used to my way of working.
À Lyon, on s'est habitué à ma façon de travailler. À ma façon de travailler. Je travaille vite et de manière efficace. Je ne parle pas beaucoup, non pas à cause de la barrière de la langue, mais je ne parle pas beaucoup. Lorsqu'il y a un problème, je trouve une solution directement. C'est une façon américaine de travailler. Donc plutôt que de dire, eh bien dans ce passage, le soleil va se lever, mais il y a des nuages, et petit à petit, ta ta ta. Donc évidemment, on parle du début de Daphnis et Chloé.
Mais
les musiciens, à mon avis, veulent plus de douceur, plus de puissance, ça va au-delà de ça, bien sûr, mais moi, le chef d'orchestre, je dois montrer les choses avec mes mains, avec mon visage, et ainsi de suite. Plus je dois parler, moins je suis efficace avec mes mains quand je dirige.
Parlons du futur maintenant, Leonard Zlatkin. Vous avez atteint un âge, on va dire, respectable. Qu'imaginez-vous pour votre futur ?
Je ne suis plus directeur musical. C'est une bonne chose parce qu'il n'y a plus de stress. Il n'y a plus d'auditions, il n'y a plus de réunions, il n'y a plus de problèmes avec les comités d'orchestre. Et moi, ça me va. Je n'ai plus besoin de faire tout ça. Donc, je vais diriger 30 semaines par an, différents endroits. Ça me suffit, j'ai écrit deux livres, je vais peut-être écrire encore un livre, mais pas sur la musique, je vais écrire un recueil de nouvelles. J'enseigne plus qu'avant, je suis en contact avec l'école de musique de Manhattan. J'ai des projets dans le domaine de l'éducation à l'art aux États-Unis. Je suis déterminé à convaincre certains membres du gouvernement que si on enseigne de moins en moins dans les écoles privées ou publiques, non seulement la musique, mais l'art d'une façon générale, la sculpture, tout ce que vous voulez, vous perdrez quelque chose à tout jamais. Et si jamais vous le récupérez, eh bien ce ne sera jamais comme avant.
Eh bien merci Leonard Zlatkin pour ce bel entretien.
C'était très chouette, merci. Eh bien on va recommencer demain si vous voulez.
Deuxième verset du psaume 108 dans les Chichester Psalms de Leonard Bernstein par le chœur symphonique de la BBC, le London Oratory School Scola et Leonard Zlatkin à la direction. Et c'est sur cette partition que s'achèvent ces grands entretiens de Leonard Zlatkin. Il s'écoute autant de fois que vous le voulez sur francemusique.fr. Merci à Pierrick Charles, Olivier Dupré, Flora Stenadel, Xavier Combe à la traduction, Gilles Blanchard et Perrine Mingui à la réalisation et à très bientôt sur France Musique.
À réécouter sur francemusique.fr.